Frères et sœurs, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes contents, une fois encore, d'être ensemble pour méditer la parole de Dieu qui nous a permis d'être là ce matin en chair et en os parce que nous sommes libérés, comme viennent chanter nos jeunes. Nous souhaitons que les jeunes de l'Église continuent à fleurir l'Église. Parce que les jeunes, c'est les fleurs de l'Église. Hein? Nous en avons besoin chaque jour pour la gloire de Dieu. Nous allons lire un verset dans Apocalypse. Alors bien entendu, attention, ce n'est pas la fin du culte. Hein? Apocalypse. Chapitre 1er et le verset 18. Apocalypse chapitre 1er verset 8. Pardon. Apocalypse chapitre 1er verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Encore une fois, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est comme si le message concernant Dieu est déjà prêché ce matin. Puisque dans tous les chants que nous venons d'auditionner, on ne parle que de Dieu. Hein? Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le message est prêché. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es miséricordieux. Mais pourtant, le titre de notre méditation ce matin, qui est Dieu? Le connaissez-vous? Comment? Qui est Dieu? Le connaissez-vous? Comment? Et vous parlez de Dieu, vous adorez Dieu, vous, tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, c'est de Dieu. Mais qui est-il? L'esprit humain est curieux de tout, dans toute sa dimension. Il cherche souvent à savoir, à voir, à connaître et à comprendre. Mais l'intelligence de l'homme est bornée et limitée. Il n'a pas la faculté de tout savoir et de tout saisir. Chercher à comprendre qui est Dieu est insaisissable pour l'homme, sauf s'il croit en lui par la foi. Dans Hébreux, tout est coordonné ce matin. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, l'auteur nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quel que soit votre niveau intellectuel, vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Quel que soit votre niveau scientifique, vous ne le pouvez pas non plus. Il n'y a que Dieu qui puisse le comprendre et ses serviteurs, nous les croyants, parce qu'il nous donne la faculté de le comprendre. Dieu, il est créateur du monde. Dieu, il est l'architecte de l'univers. C'est vrai, on parle de tout Eiffel, on parle de Montparnasse, on parle de tout et de rien, des châteaux. Mais qui a fait le ciel? Qui a fait la mer? Qui a fait la nature? C'est un homme? Et ce Dieu dont nous parlons ce matin, ce Dieu que nous servons, il est esprit. Hein? Dans Jean chapitre 4, verset 24, nous lisons, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Certainement, nous ne voyons pas où est Dieu, il est là. Cela ne empêche pas de manifester sa présence sous forme visible. On parle de théophanie, hein? C'est l'incarnation de Dieu, il se fait chair, hein, pour se présenter devant nous. Regardez dans Apocalypse, dans Genèse, et c'est le début maintenant, Genèse chapitre 18, le verset 1 et le verset 2. Le titre, c'est que c'est l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. L'Éternel lui apparu parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Dieu, il est tout puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il voulait se présenter devant son serviteur Abraham. Dieu, il est resté Dieu. Il n'a aucune présentation qui puisse comparer à notre Dieu. Aucune présentation qui lui soit égale. Comme l'Église catholique romaine veut faire croire à ses adeptes. Il n'y a aucune image qui puisse présenter, qui représente Dieu. Dans Exode chapitre 20, où Dieu a donné ses ordres, Genèse, Exode. Dans Exode chapitre 20, dans le verset 4, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça veut dire que ce passage justifie que personne ne peut représenter Dieu, soit un homme, soit un objet, soit quel que ce soit. Parce que Dieu, il est esprit. Si vous voulez l'adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Dans notre texte de base, il parle de l'alpha, il parle d'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Parce que vous savez que la Bible était écrite en grec, en hébreu et en araméen, la langue même de Jésus. Dieu règne sur toute l'histoire de l'humanité. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Avant lui, il n'y a point été formé de Dieu. Et après lui, il n'y en aura pas d'autre. Ça veut dire, Dieu, réellement, il est le commencement et la fin. Dieu, il est le maître du passé. Il est le maître du présent et il est le maître du futur. Il est le premier et le dernier de tout ce qui existe. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Il n'a pas de fin. Et c'est ce Dieu que nous adorons ce matin. C'est une fierté que nous soyons les enfants de Dieu. Non seulement Dieu, il est esprit, mais il est saint. Saint, saint, saint est l'éternel des armées. À cause de sa sainteté, il mérite l'honneur, le respect, la louange et la gloire. Le mot saint signifie séparé, mis à part. Dieu se distingue radicalement des hommes pécheurs. Dans l'Ancien Testament, la sainteté de Dieu est manifeste dans la distance qu'il maintient entre lui et les hommes. Seuls les prêtres pouvaient offrir les sacrifices. Et le lieu très saint est accessible au seul grand prêtre une fois par an. Il est interdit même de regarder l'arche, voire le toucher. Quand Moïse voulait voir la face de Dieu, l'Éternel lui dit, « Moïse, vous ne pouvez pas voir ma face et vivre. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Il n'y a aucun rapport entre la sainteté et l'iniquité. Regarde ce qu'il a dit dans Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, verset 18. Il parle à Moïse. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la face de Dieu. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui? Je fais grâce et miséricorde à qui? Je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. En tant que pécheur. Et dans le chapitre 3, verset 6, même en Exode, dans le chapitre 3, verset 6, l'Éternel dit, « Je suis le Dieu de ton père. » Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Aujourd'hui, nous faisons tout ce que nous voulons. Pour venir dans la sainte présence de Dieu, nous nous habillons n'importe comment. Soit avec nos pantalons, soit avec nos chemises d'une manière ou d'une autre, mais nous ne respectons pas la présence de Dieu. Les sacrificateurs, ils avaient un type d'habit pour présenter devant Dieu. Et Dieu avait même ordonné à ses sacrificateurs comment leurs enfants doivent-ils habiller pour venir dans le temple saint de Dieu. Quand vous allez dans votre travail, vous êtes cravaté. Parce que c'est le patron, je ne vais pas perdre mon poste. Votre costume, oui, ça, on vous voit en tiré à quatre épingles. Comment les jeunes disent, on vous voit en beau gosse, hein? Parce que c'est le patron. Quand vous avez un entretien, vous êtes convenablement bien pour vous présenter devant qui vous allez répondre à des questions. Mais quand vous venez à l'église, comment vous êtes? Ça veut dire vous respectez les patrons, les gens du dehors, plus que Dieu. Dieu qui vous a donné la vie, Dieu qui vous a créé, Dieu qui vous a fait de ses mains. Vous respectez l'homme plus que Dieu. Et vous ne faites pas partie avec Pierre qui dit, « Monsieur, jugez-vous vous-même, à qui je dois obéir? Aux hommes plutôt qu'à Dieu. » Est-ce que vous êtes comme Pierre ce matin? Si Dieu était devant la barrière pour mettre dehors tous ceux qui veulent rentrer à l'église n'importe comment, est-ce qu'il y aurait des gens ici là ce matin? Dans le Nouveau Testament, la sainteté de Dieu se manifeste par la sainte perfection de Jésus-Christ. Et surtout, par le sacrifice de la croix. Dans Hébreux chapitre 9, verset 12, nous savons que une fois pour toutes, Jésus, il est rentré. Regardez, Hébreux 9, verset 12. Il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pourquoi? Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour nos péchés. Nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que le sang de Jésus nous a rendus purs pour nous présenter devant Dieu. Et Pierre, il dit, puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous présenter devant lui sans respect, n'importe comment. Aujourd'hui, les hommes sont tellement arrogants, orgueilleux, cruels et fallacieux. Il y a tellement de « quant à moi ». Même à l'église. À l'église, il y a le « moi ». Je suis plus que toi. Bon, si Dieu ne pardonnait pas, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Voilà pourquoi chaque jour, il faut dire « merci Seigneur ». Béni soit l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, parce qu'il nous a fait grâce. Sinon, nous serions dans la tombe. Mais la grâce de Dieu est disposée pour nous en toute abondance. Non seulement Dieu, il est saint, mais il est amour. Ah, quel bel mot, hein? Amour. Nous venons de voir la redevance que nous devrions avoir à Dieu, après tout ce qu'il a fait. Seigneur, en retour, reçois quoi? Ah non. Seigneur, en retour, reçois. Seigneur, en retour, reçois mon amour. L'amour, quand on le répète, c'est doux, hein? Reçois mon amour. C'est un mot tendre. Et pourtant, Dieu, il est amour. L'amour est le lien de la perfection qui existe entre Dieu et les hommes. C'est le but final de toutes les activités de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. On n'a pas besoin de demander, de chercher. Hein? Dieu a tant aimé le monde. Même Laura, hein? Elle n'est pas là. Elle peut réciter. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la marque d'amour. Il faut donner. Regarde ce que Paul dit dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 8. Dans Romains chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça l'amour. Le prophète de l'amour, Jean, il nous demande de manifester cet amour les uns envers les autres. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, il dit, si nous n'aimons pas nos frères que nous voyons, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas? Est-ce que vous aimez votre frère, votre sœur? Est-ce que vous manifestez cet amour de Dieu qui vient d'en haut, verticalement, et qui doit s'approprier horizontalement? Ça veut dire, si vous dites que vous aimez Dieu et cet amour n'est pas manifesté vis-à-vis de vos prochains, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dans le sermon sur la montagne, Jésus, il a donné cet ordre. C'est un ordre. Hein? Matthieu chapitre 5. Verset 43 et 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécute. Ah, c'est là le dilemme de l'amour. C'est là le dilemme pour servir Dieu. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui parlent mal de vous. C'est pas facile, mes frères et sœurs. Du tout. C'est pas facile. Et c'est ça le dilemme de l'amour. Ça ne sert à rien si on aime ceux qui vous aiment. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien. Ça ne sert à rien. Il faut donner à ceux qui ne vous donnent pas. Il faut prier pour ceux qui vous maudissent, pour ceux qui vous persécutent. C'est pas prier pour donner, comme on dit, des madichons à quelqu'un. Ah, j'avais vu ça pour toi. C'est pas prier pour condamner à Jean-Pierre pour ce qu'il a fait. Des fois, vous prenez beaucoup de plaisir dans le malheur des autres. Et alors, et vous? C'est facile, oui, c'est facile de dire « je t'aime ». Hein? C'est facile à dire « je t'aime ». Mais quand il faut manifester cet amour, c'est ça le dilemme. Parce que l'amour, c'est donner. L'amour, c'est se donner. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on chérit. Quand on aime, on donne son temps. Les mercredis soirs, il n'y a personne ici que les habitués. Qu'est-ce que vous faites chez vous alors? Dans un pays où les chômages bas sont pleins. Vous travaillez. Mais c'est normal. Vous travaillez. Dieu n'est pas contre que vous travaillez. Mais si vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites? Devant la télé? Vous regardez les feuilletons, les replays et quoi? Votre temps, le temps que Dieu vous donne, c'est le temps pour le servir. C'est le temps pour travailler pour lui. Dieu, il vous a donné de l'argent. Eh bien, si vous aimez, il faut donner de l'argent aussi. Ah, quand on dit l'argent, même quand entre mari et femme, il y a toujours du secret. Ah, je vous aime tendrement, mais quant à ma poche, non. Et vous allez mourir, l'argent est resté. C'est ce que vous ne comprenez pas. Dieu, il a donné l'argent pour servir. Mais aujourd'hui, le monde crève de faim et puis l'argent augmente. Si vous aimez, il faut donner de l'argent aussi. Hein? Il faut donner tout comme Dieu il l'a fait. Si vous aimez, il faut donner son service. On a besoin de toi, eh bien, il faut qu'on vous trouve pour le service. Et vous aimez Dieu, comment vous servez Dieu? Les vendredis soirs, c'est les mêmes personnes qui sont là pour prier pour les autres. Et chaque jour, Aldo n'arrête pas de demander de venir. Et puis, vous aimez Dieu? Oui, Seigneur, je t'aime en retour pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est lourd, hein, quand on est dans le mensonge pour dire je t'aime. Et il y avait un pasteur qui prêchait la parole de Dieu. Alors, c'est par Aldo, bien entendu. Il parlait de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Sa femme était au milieu de l'enceinte. L'assemblée voit que sa femme qui déchire pour sortir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est arrivée, elle prend un camion, prend tout ce qu'il y avait à la maison, embarqué dans le camion pour venir déposer à l'église. Et pourquoi faire? Si mon mari parle de l'amour à l'église, ça veut dire qu'il y a de l'amour à l'église. C'est là que nous devons vivre. Parce qu'il n'y a pas d'amour à la maison. Quand on est ici, on est pieux, respectueux, très tendre. Mais pourtant, ce qui se passe à l'extérieur d'ici, c'est différent. L'amour, c'est lumière. Il ne peut pas être caché. L'amour, c'est Dieu. Et alors, le Dieu qui est saint, le Dieu qui est amour, est-ce que nous le connaissons? Nous connaissons Dieu par et à travers Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui représente, qui a l'opportunité de nous dire qui est Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 8 et 9, il y avait Monsieur Philippe qui demandait à Jésus, et montrez-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit à Philippe, Philippe, ça fait longtemps qu'on est ensemble, comment dis-tu, montrez-nous le Père? Je te le dis, celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Parce que c'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut connaître Dieu. Dieu, il nous le fait connaître par les merveilles de la nature. Dans Romains chapitre 1, verset 18 à 20, Paul, il déclare que la nature, tout ce que Dieu a fait, témoigne sa grandeur. Il n'y a pas d'excuse pour ceux qui vont dire « je ne connais pas ». Dieu, il nous a fait connaître à travers la conscience. Dans Actes chapitre 24, dans Actes chapitre 24, verset 16. Pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes? Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Si on vous demande ce matin, comment est votre conscience? Qu'est-ce que vous allez répondre? De tout ce que vous faites, il y a un écrivain français, un poète François Rabelais, il dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tout ce que vous faites, il faut le faire avec votre conscience. Et Dieu, il nous a fait connaître sa puissance à travers sa parole. Dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et elle a habité parmi nous. Ordinairement, les témoins de Jéhovah, ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils ont pris ce passage pour dire la parole était avec. Mais il n'a pas prêté attention au « la parole était Dieu ». C'est un état. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il dit « la parole de Dieu est vivante et efficace ». Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Qui peut voir ce qui se passe dans nos cœurs ici? Il y a quelqu'un? Peut-être les médiums. Ils peuvent même pas leur avenir et puis ils peuvent voir l'avenir des autres. Comment voulez-vous voir ça? La personne a échoué dans sa vie. Et puis, elle dispose de quoi pour faire enrichir l'autre. Comment ça? Et c'est depuis quand l'homme n'était plus égoïste pour voir l'intérêt des autres avant son intérêt? C'est faux. Il n'y a que Dieu qui puisse voir l'avenir, parce qu'il est le maître du passé, du présent et du futur. Personne d'autre. Nous connaissons Dieu à travers de beaucoup de ses attributs. Ses attributs qui témoignent toute sa puissance, son autorité, son pouvoir et sa souveraineté. dans Genèse chapitre 17, verset 1er, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, ce Dieu tout-puissant, il est incomparable. Il y avait un roi puissant dans la Bible, Nebuchadnezzar. Il voulait qu'on l'adore à la place de Dieu. Avec son image, il demandait à Daniel de s'agenouiller pour le louer. Mais il ne connaissait pas ce qui est Dieu. Et finalement, on ne peut pas lutter avec Dieu. Daniel, dans sa foi, il ne voulait pas. Il s'est mis en rébellion contre cette volonté. On lui a mis dans la fosse au lion, mais l'Éternel l'a gardé sain et sauf. Et l'histoire de Nebuchadnezzar, c'est très étonnant. Hein? Il est devenu un animal qui mange des herbes. On ne peut pas se moquer de Dieu. Il y a Pharaon qui savait qu'il était un Dieu aussi. Il a pris le peuple de Dieu en esclave. Et mais quand l'Éternel devait faire sortir ce peuple de l'esclavage en Égypte, une première plaie, une deuxième, 10 plaies. Et finalement, Pharaon arrive à un moment, il a dit, « Moïse, viens prendre ton peuple et partir avec. » On ne peut pas résister devant la toute-puissance de Dieu. Est-ce que vous connaissez ce Dieu ce matin, tout-puissant, mes frères et sœurs? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez son omniscience? Dieu, il sait tout. Si on est sous la mer, Dieu, il est là. Si on monte dans les cieux, Dieu, il est là. Partout où il est, Dieu, il est là. Ça s'explique dans Psaume 139. Alors, il y a beaucoup de messieurs et de madames qui s'appellent aujourd'hui « Monsieur, je sais tout, madame, je sais tout. » Croyez-moi, si vous voulez, vous ne savez rien. Absolument rien. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Vous ne vous connaissez même pas. Et puis, vous savez tout. Dieu, il sait votre destinée depuis le jour de votre conception jusqu'à celui de votre mort. Parce qu'il est tout puissant. La présence de Dieu a rempli l'univers. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent. Il est partout. Ce n'est pas comme Satan qui peut être dans une zone. Il ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Mais Dieu, il voit tout. Il sait tout. Il est partout. Non seulement il est omniscient, Dieu, il est immortel. Voilà notre fierté. Hein? Nous servons un Dieu immortel. Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1er verset 17, ô Dieu invisible, immortel, c'est le Dieu tout-puissant. Et mes frères et sœurs, ce qui fait notre joie ce matin, c'est que notre Dieu, il est miséricordieux et juste. Nous cherchons toujours la miséricorde. Et ces deux attributs de Dieu sont mentionnés très souvent ensemble dans l'Écriture parce qu'ils se complètent mutuellement. Miséricordieux et juste. Sans miséricorde, la justice serait dure et tous les hommes seraient perdus. Car nous étions condamnés. Dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Sans justice, la miséricorde serait une indulgence coupable pour le péché et l'univers serait dans l'anarchie. Dans sa miséricorde, Dieu a pitié du pécheur, mais dans sa justice, il ne le sauve qu'en le débarrassant du péché. Vous allez prêcher l'évangile. Il faut prendre la personne telle qu'elle est. Nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui fait tout par la puissance de son Esprit Saint. Parce que c'est lui qui est miséricordieux et compatissant, selon ce que nous lisons dans Psaume 103. Il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Et Dieu a manifesté sa compassion. Dieu, il nous aime. Il nous aime jusqu'à donner son enfant unique, mourir pour nous sauver. Regardez ce matin ce que nous avons comme réconfort. Dans Exode chapitre 3, verset 7 et verset 8, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai descendu, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. » Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule du miel et du lait. Un jour, nous serons là-haut avec Dieu. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus d'inondation. Nous avons beaucoup travaillé avant de construire notre petite maison, mais aujourd'hui, l'eau a envahi, c'est fini. Est-ce que vous avez cette garantie en Dieu? Parce que c'est en lui que nous avons cette assurance. Nous ne pouvons rien perdre. Rien ne peut nous séparer de lui. Ce qu'il avait fait pour le peuple Israël, pour sortir de l'esclavage en Égypte, il a coupé la mer aux Jourdain. Il peut le faire pour nous ce matin. Quelles que soient les montagnes devant vous, quelle que soit la mer rouge que vous avez devant vous, soyez assurés que Dieu, il peut nous délivrer. Il peut nous libérer parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il suffit de le connaître à travers son Fils Jésus-Christ. Remet en lui toute notre confiance et il prendra soin de nous. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Merci.